Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission consacrée à l'Afrique. L'ONU présente son plan d'action pour redonner un avenir aux Libyens. L'émissaire spécial de l'ONU, Ghassan Salamé, a présenté mercredi sa feuille de route pour la Libye, plusieurs étapes institutionnelles avant des élections générales pour redonner un avenir aux Libyens. Il y a 6 ans, les Libyens se sont vus promettre une transition. Aujourd'hui, ils sont fatigués et ils veulent sortir de l'incertitude, a déclaré M. Salamé à l'ouverture d'une réunion de haut niveau sur la Libye en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Les Libyens ont trop souffert. Ils méritent la paix et de vivre en paix dans la démocratie et la prospérité, avait déclaré avant l'ONU le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Autour de la table se trouvaient une dizaine de dirigeants des pays impliqués directement ou indirectement dans le casse-tête libyen, un pays totalement fragmenté et en proie au chaos depuis la chute du colonel Kadhafi en 2011. Parmi les participants, les Européens en première ligne dans le dossier des Libyens en raison de la crise migratoire et de la menace terroriste étaient notamment représentés par le président français Emmanuel Macron, le président du conseil italien Paolo Gentiloni ou encore la première ministre britannique Theresa May. Le président zimbabwéen Robert Mugabe a donné quelques leçons d'unité, de paix et de coopération à son homologue américain jeudi à la tribune des Nations Unies à New York. Avant franc-parler et humour, Robert Mugabe a lancé quelques piques à Donald Trump lors de la 72e Assemblée des Nations Unies. Certains d'entre nous étaient embarrassés, sinon effrayés par ce qui semblait être le retour du géant biblique Goliath. Sommes-nous en présence du retour d'un Goliath qui menace d'extinction d'autres pays, a-t-il déclaré en référence au discours du président américain dans lequel il avait menacé de détruire totalement la Corée du Nord. Dans son message d'une vingtaine de minutes, Robert Mugabe a aussi fustigé la décision de Donald Trump de se retirer de l'accord de Paris sur le climat. Il lui a aussi formulé quelques recommandations. Puis-je dire au président des États-Unis, Monsieur Donald Trump, quand vous soufflez dans votre trompette, soufflez d'une manière musicale pour la marche vers les valeurs de l'unité, de la paix, de la coopération, de l'union, du dialogue que nous avons toujours défendu et sont bien écrits dans notre document sacré, la Charte des Nations Unies. Sur ces valeurs, chaque nation peut construire sa grandeur, y compris les États-Unis. Une réunion de haut niveau consacrée à la situation en RDC a eu lieu mardi à huis clos en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. D'après le compte rendu publié à l'issue de la rencontre, les participants ont d'emblée salué l'engagement exprimé par les autorités de la République démocratique du Congo à respecter la Constitution. Une allusion à l'article 71 de la Constitution qui dispose que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois et qui interdit de facto au président Joseph Kabila de concourir pour un troisième mandat. Autrement dit, chez la communauté internationale, à travers les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, la communauté économique des États d'Afrique centrale, la communauté de développement d'Afrique australe, la conférence internationale pour la région des Grands Lacs, l'Organisation internationale de la francophonie et les représentants de ces 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité qui ont pris part à cette réunion dite de haut niveau s'inscrivent en faux contre toute idée de prolongement du mandat de Joseph Kabila. Ceux qui, autour du chef de l'État congolais, avancent la piste d'un référendum constitutionnel sont ainsi prévenus. Petit bémol, les participants restent muets sur la proposition de l'opposition d'imposer une transition sans Kabila pour conduire le pays vers les élections. Les participants ont également réaffirmé le rôle incontournable de l'accord de Saint-Sylvestre et la nécessité de sa mise en œuvre totale afin de baliser la voie pour la tenue d'élections libres et justes, pacifiques et crédibles. La France doit clarifier au plus tôt son engagement sur le nombre de réfugiés qu'elle compte aller chercher au Niger et au Tchad, a réclamé l'envoyé spécial du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés pour la Méditerranée centrale, Vincent Cochetel. Le nombre de personnes vulnérables et ayant besoin d'un transfert s'élève à 83 500 au Tchad et 10 500 au Niger, a déclaré M. Cochetel dans un entretien au journal Le Monde, en rappelant qu'il s'agissait là des deux pays dans lesquels la France projette de venir chercher des Africains pour les réinstaller. Lors d'un mini-sommet le 28 août à Paris, le président français Emmanuel Macron avait proposé d'identifier au Niger et au Tchad les ressortissants qui ont droit à l'asile pour les mettre en sécurité le plus rapidement possible. Sous supervision du HCR, mais la France n'a pas à ce jour transmis d'engagement chiffré, a souligné l'envoyé spécial du HCR. Aussi, nous demandons au gouvernement français de clarifier au plus tôt la hauteur de son engagement, a-t-il précisé. Les habitants de Rabat, capitale marocaine, ont condamné vendredi 22 septembre haut et fort toute normalisation avec Israël. Les Marocains se sont rassemblés vendredi 22 septembre devant le Parlement à Rabat, la capitale marocaine, afin de condamner la normalisation avec le régime israélien en matière artistique et sportive. Les contestataires ont appelé les députés du Parlement marocain à ratifier une loi considérant comme un délit tout rétablissement des relations avec le régime de Tel Aviv. À la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, M. Touadéra, président centrafricain, a réaffirmé sa détermination et celle de son gouvernement à faire réussir les efforts de paix, tout en rappelant que l'État centrafricain souffre de capacités limitées. En plus de la faible puissance de riposte de l'État face aux violences des groupes armés, le président centrafricain a regretté que même les effectifs de la MUNISCA ne soient pas suffisants pour faire face aux défis de protection des populations civiles. L'augmentation des périls sécuritaires liés à la violence imposée par les groupes armés recommandent que des dispositions soient prises afin de juguler les risques de généralisation de la crise, a-t-il souligné. Le tribunal international du droit de la mer, TIDEM, a estimé samedi que le Ghana n'avait pas violé les droits d'exploitation pétrolière de la Côte d'Ivoire, statuant sur le différend concernant la frontière maritime entre ces pays. Dans son arrêt, la Cour basée à Hambourg en Allemagne considère que le Ghana n'a pas violé les droits souverains de la Côte d'Ivoire, comme l'affirmait Yamoussoukro, qui considérait avoir un droit exclusif d'exploitation d'hydrocarbures dans une zone offshore disputée. Le TIDM a par ailleurs calculé le tracé de la frontière maritime en utilisant le principe de l'équidistance défendu par le Ghana. Cette carte s'impose désormais aux deux parties. Le Ghana et la Côte d'Ivoire, deux poids lourds économiques de l'Afrique de l'Ouest, s'opposaient sur le tracé de leur frontière maritime qui traverse un gisement de pétrole offshore que les deux voisins souhaitent exploiter. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. On va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission et pour parler des faits marquants de l'actualité africaine.